Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Emmanuel avec vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement cette semaine, mais sérieusement, je pense que je dis ça toutes les semaines. Ça me surprendrait que je parle de quelque chose qui ne me tient pas à cœur, mais cette semaine, je parle de la souffrance. Et il existe plusieurs formes de souffrance et ça se manifeste différemment et on la gère également différemment. Il y a certaines personnes qui parlent quand ils ont mal et il y a d'autres personnes qui sont très mal à l'aise et ne parlent pas et gardent tout pour soi. Quand ils ne sont pas dans un état de bien-être, c'est plus difficile de le verbaliser. Mais que ce soit la souffrance silencieuse ou la souffrance qui se crie de douleur, une souffrance, c'est une souffrance et elle est importante. Elle teinte nos vies, que ce soit présentement ou elle l'a déjà teintée. Parfois, on s'en sort. D'autres fois, elle nous mange complètement. Et parfois, on a tellement souffert qu'on ne sait plus nécessairement de quoi parler d'autre. Mais la souffrance est réelle. La nôtre, celle de nos proches, celle de certaines collectivités, de certains pays, de la planète elle-même. Et elle fait mal. Et je me questionne aussi sur notre relation avec la souffrance. J'écoutais une femme parler de la souffrance un jour et ce qu'elle a dit, ça m'a tellement interpellée et c'est devenu limpide et ça faisait tellement de sens. Quand on évolue dans un contexte social où des phrases comme « no pain, no gain » en anglais qui est bien connue et qui dit que sans souffrance, il n'y a pas de gain ou encore il faut souffrir pour être belle ou après la pluie, le beau temps, est-ce qu'on ne serait pas en train de glorifier la souffrance? Ben, c'est pas étonnant qu'on finisse par plus la remettre en question des fois. Mais est-ce que la souffrance est réellement nécessaire? Est-ce qu'elle a des bienfaits? Où est-ce qu'on la met, la souffrance? Est-ce qu'elle a une utilité? Et il semble qu'avoir mal et souffrir seraient deux choses différentes. Qu'est-ce qui les distingue? On en parle aujourd'hui avec notre invité, l'authentique France Castel. Bienvenue à Emmanuel, avec un M et deux L. Donc, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont à l'écoute pour la première fois de l'émission, j'en ai déjà parlé souvent, mais toute ma vie, j'ai étudié en relations d'aide. À 17 ans, j'ai commencé une technique en intervention à délinquance au cégep. Technique que j'ai complétée moi-même en 4 ans parce que ce passage-là de ma vie a été teinté d'ailleurs de souffrance, entre autres d'un deuil d'un ami qui m'était très cher. Bref, j'ai pris le temps qu'il fallait pour le terminer. Ensuite, j'ai fait un certificat en travail social, un baccalauréat en psychologie et j'ai accédé au doctorat en psychologie. J'ai fait l'examen doctoral et ensuite, j'ai décidé de suivre ma passion et d'aller chanter. Mais au cégep, un des travaux qui nous était demandé de faire, c'était de rédiger une dizaine de pages sur les raisons pour lesquelles on vivait. C'était dans le cadre d'un cours sur le suicide et c'était assez simple, hein, comment on pouvait assister quelqu'un qui pouvait mourir, qui voulait mourir, si on ne savait pas nous-mêmes pourquoi on voulait vivre. Et j'avais 18 ans. Et au bout de ces 10 pages-là, j'ai convenu que je vivais principalement pour deux choses. Expérimenter et aider les autres. Pour faire court, expérimenter la vie, m'expérimenter à travers la vie, m'auto-actualiser et aider. À 28 ans, ça faisait 11 ans que j'étudiais l'humain et que je voulais l'aider. Ça faisait 11 ans que j'essayais de m'outiller pour faire arrêter la souffrance dans le monde une personne à la fois. Ça faisait 11 ans que j'étudiais les miennes, mes propres souffrances, que je les comprenais, que je tentais de les guérir année après année. Parce que pour moi, la souffrance, c'était pas une option et ce n'est encore pas une option. Elle n'est pas normale, elle ne doit pas être vécue par quiconque, même si elle fait partie de la vie. Et j'ai une sensibilité particulière à ressentir la souffrance des gens. Je m'étais donc dit que c'était un cadeau pour moi d'avoir accès à cette souffrance-là rapidement, aisément, facilement, et j'allais en faire un travail. Mais j'avais un petit peu de difficulté à ne pas souffrir avec les gens, des fois, mais n'en demeure pas moins que de voir les conséquences du rejet dans les yeux d'une personne, de la trahison, de la solitude, de la douleur physique, d'un cœur brisé en mille miettes, un mal de vivre tellement flou qu'on ne peut pas le prendre dans nos bras pour le consoler. C'est pour moi extrêmement difficile à regarder sans vouloir agir. La souffrance des animaux me touche, la souffrance de la perte de quelqu'un, d'un échec, la souffrance d'exister me touche. D'ailleurs, cette émission-là, pour moi, est une autre façon d'essayer de diminuer la souffrance dans le monde. J'ai commencé à faire cette émission-là et j'ai dû cibler mes buts et l'un d'eux était de faire en sorte que si quelqu'un, une fois, pouvait se sentir mieux avec lui-même à l'écoute de quelques mots, eh bien, mon travail était fait. Il y a la souffrance physique et il y a la souffrance psychologique. C'est le mal-être intérieur. C'est deux souffrances distinctes avec son côté aliénant, mais tellement évolutif à la fois. Et pour ma part, j'ai connu les deux. Et c'est drôle, on a tendance à vouloir les comparer, à vouloir les hiérarchiser, comme je parle souvent de cette tendance qu'on a à faire ça sur pas mal tout ce qui existe. Il y a des souffrances qui semblent acceptable plus que d'autres. Hein, l'athlète, même nous, quand on va au gym ou quand on fait une activité physique, on souffre, on dépasse nos limites. Et ça, c'est gagnant. C'est comme c'est bien vu. C'est accepté par les autres et par nous-mêmes qui le faisons. Mais il y a des souffrances chroniques, des souffrances qui sont vécues davantage comme étant subites. Et celles-là sont plus difficiles. Donc, est-ce que la volonté de souffrir, le fait de se l'auto-infliger, serait la clé pour accepter d'avoir mal? Et de manière générale, avoir mal physiquement reste mieux accepté et mieux reconnu que d'avoir mal en dedans, qui malheureusement est souvent dépeint comme un manque de maîtrise de soi, un manque de volonté même, tu sais. Donc, il y a certaines formes de souffrance qui sont non seulement normales et acceptables, mais on se permet aussi de légitimiser certaines d'entre elles plus que d'autres. Hein. On se permet de dire aux gens qu'est-ce qui devrait faire mal ou non. Hein. Si quelqu'un a trop de peine après une rupture, une amoureuse, on lui dit d'en revenir. C'est comme on décide quand c'est temps d'en revenir. Si une personne a l'air de ne pas avoir assez de peine après avoir perdu quelqu'un, perdu un être cher, qu'elle passe trop vite à autre chose, on se questionne si elle a du cœur. Hein? On trouve qu'elle va vite un petit peu, elle vit pas assez sa peine. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse? On le sait pas. Et au-delà de ça, j'ai déjà aussi vu des combats de souffrance entre les gens. On parle souvent de la comparaison entre les maisons où le gazon est plus vert chez le voisin, mais il y a des combats de souffrance aussi. Je ne sais pas si vous souriez à la maison, dans votre auto, mais moi, je souris parce que ça me dit quelque chose. On pense tout de suite à quelqu'un, même parfois, même nous-mêmes, des fois, on s'est positionné dans une situation « Ouais, mais on ne comprend pas, moi, j'ai plus mal. » Mais voyons donc. Qu'on ne se fasse pas à croire qu'on n'a pas une attache particulière avec la souffrance quand on voit à quel point, des fois, on s'en nourrit. Et l'idée ici, c'est de mettre fin le plus possible à la souffrance en voyant qu'elle est délétère, tellement triste et à la fois également utilisée malgré nous. Parce que de trouver une utilité à la souffrance... Je pourrais dire, en fait, que de ne pas trouver cette utilité-là, ça la perpétue. Et des fois, l'utiliser, et quand on a un aspect bénéfique à souffrir, eh bien, on finit par trouver un petit nid de réconfort dans cette souffrance-là. Hein, quand on est malade, on ne te demande rien. Ça libère d'un fardeau de responsabilité. Et quand on ne sait pas comment dire non, quand on ne sait pas où sont nos limites, quand on ne sait pas quand arrêter de donner, de faire, de performer, ben ça devient un pas pire lieu de repos. T'sais, ça, c'est comme... Pensez-y pour vrai. Une fois, je me rappelle, j'ai vécu une rupture qui a fait extrêmement mal et j'avais de la peine et je n'étais pas capable d'arrêter d'avoir de la peine. Et je me suis rendu compte à un certain moment que... Si je laissais aller cette peine-là, c'est comme si je laissais aller également l'importance que cette relation-là avait eue pour moi. Donc, avoir de la peine puis rester dans ma souffrance puis dans mon malheur, ça servait à quelque chose, ça comme valorisait mon expérience, tu sais. Quand j'ai réalisé ça, ça a mieux été. Ça a comme fait « Hey, tu sais quoi, c'est pas rattaché si mon cerveau fait des liens qui n'ont pas de sens. » Et c'était vrai. C'était vrai. Mais est-ce qu'on est capable de voir la souffrance derrière ceux qui nous font le plus souffrir? Moi, j'ai appris à le faire très tôt, à le faire souvent, à en faire un mandat dans mes perceptions et dans mes jugements. Qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir que la souffrance quand on souffre nous-mêmes tellement? Et comme j'en parlais dans l'émission sur le pardon, où faire la différence entre pardonner et accepter est important, n'en demeure pas moins que de comprendre et de prendre en considération la souffrance de ceux qui nous font souffrir peut changer bien des choses. Parce que quand on souffre trop, tellement, on finit à avoir que de la souffrance à offrir aux autres. Et de voir cette souffrance-là chez ceux qui causent la souffrance, ben, paradoxalement, ça diminue la nôtre. Ça nous permet de nous tourner vers la compassion et la compréhension et l'empathie. Ça nous permet de diminuer un peu nos blessures. On continue de parler de la souffrance dans quelques minutes avec France Castel.
Dorénavant, je suis couché sur mon grand lit. Du coin de mon œil par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable de croire qu'il faut que je m'arrête ici. Je suis tout seul. De toute façon, ça me fait trop mal. Mon corps, c'est un pays en guerre, sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle, j'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler, leur dire allô, c'est moi, je suis correct. J'suis toujours en vie. La planète tourne. Elle est pas supposée tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux. Il se calisse bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique. Il prend son temps. Il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments. Ces derniers jours, j'ai dû vieillir de 4000 ans en visitant des vieux souvenirs dont je suis pas fier. Pour faire la paix avec ses regrets, ça prend du temps. Je me retrouve 100 fois plus fatigué, trop fatigué, mais moins amer. L'histoire du monde puis mon histoire sont mélangées. Je viens juste de revivre 100 000 autres vies. En une seconde, toutes mes conneries, puis l'ambition de l'humanité, ça revient aux mains. Y a pas de coupable, y a pas d'or. Mais je suis heureux parce qu'au moins je meurs l'esprit tranquille. Je vais commencer mon autre vie, de la même façon. Je vais avoir de l'instinct, je vais rester fidèle à mon style. L'entente parfaite entre mon cœur et ma raison. L'harmonica, c'est pas un violon, c'est pas éternel. Et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sort. D'ailleurs, à soi, je me permets de pleurer avec elle. J'attends un peu. Je suis pas pressé, j'attends la mort.
On la connaît comme chanteuse soliste, choriste, sur scène dans une comédie musicale qui a changé la vie de beaucoup de gens, Starmania. Comédienne, actrice, animatrice. Dans le fond, il n'y a pas grand-chose qu'elle n'a pas fait dans ce milieu-là, finalement. Mais il y a une des choses qui est très, très importante et qui, pour moi, prévaut, c'est le fait qu'on la connaît, elle. Pour qui elle est? Avec tellement de transparence, elle est avec nous aujourd'hui pour parler de la souffrance en général, de sa souffrance. France Castel, bonjour.
Bonjour à toi, Emmanuel.
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là, avec une générosité qu'on te connaît bien, mais quand même.
Ben, écoute, c'est des sujets importants, puis c'est des sujets quelque part tabous, puis il n'y a pas grand monde qui peut aller au fond de ces sujets-là. Alors, tout ce qui implique l'évolution intérieure et la conscience, ça m'intéresse.
Je suis contente, puis on est là pour ça. Parce que la souffrance, j'en ai parlé sous plusieurs angles depuis le début de l'émission, mais je veux connaître, on le sait que tu as souffert, tu as parlé de ton mal-être à toi. Je veux savoir quelle place la souffrance a eue dans ta vie. Comment tu la qualifies, ta souffrance?
Hey, ça, c'est une. C'est toute une
on commence
question,
pas raide. Hein?
On commence pas raide à peu près. Quelle place a eu la souffrance dans ma vie? Je te dirais qu'elle a eu une première place, c'est-à-dire très tôt. Et elle a pris toute la place, elle a pris un peu trop de place et elle a pris autant de place que la joie. Je porte les deux, vraiment les deux. Je porte vraiment un appétit et une joie incroyables et je porte une grande souffrance. Alors, quelle place? Je pense que ce que je peux répondre de plus clair, c'est que c'est presque ma première émotion.
À ce point-là.
Ouais.
À ce point-là.
Ouais.
On le sait que tu as vécu des périodes, bon, à l'enfance, tu le dis, tu as une relation qui était particulière avec ton père, mm-hmm. tu as découvert des émotions qui sont remontées mm-hmm. De manière virulente, parce que je veux dire, c'était extrêmement difficile à faire face, cet amour qu'il t'a porté, tu en as parlé, tu en parles encore d'ailleurs dans ton livre « Ici et maintenant mm-hmm. ». C'est comme si tu étais née avec, tu sais.
Oui, je pense qu'on est, je ne sais pas, moi aussi, je pense qu'il y a une partie, et chez mon père et chez moi, qui est plutôt chimique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau des neurones dans mon cerveau qui est un peu borderline de quelque chose. Et que ça, autant chez lui que chez moi, et comme peut-être quelques-uns dans ma famille, on a cet héritage-là biochimique, si on veut. Alors, pour ne pas dire vraiment, il y a des maniaco-dépressifs dans ma famille, et moi, je le suis juste à la limite, c'est-à-dire que le lithium n'a jamais pu m'aider. Alors... j'ai trouvé d'autres médicaments plus tard qui m'ont servi, qui m'ont nui et qui ont failli me tuer.
Oui.
Mais je pense qu'il y a une partie de ça, puis il y a une extra-sensibilité, moi, que j'ai, que je porte toujours. Et c'est justement de jongler avec ça, puis de ne pas y donner toute la place, qui est le grand voyage intérieur et la grande réussite qu'on peut avoir avec notre souffrance, je dirais pas en l'éliminant.
Bien, c'est extrêmement pertinent, important, et c'est un des points majeurs de la souffrance dans nos vies, parce qu'il y a un niveau où, à un moment donné, on souffre tellement qu'on peut peut-être se perdre à l'intérieur de ça. Qui je suis, moi, quand je vais bien? Est-ce que tu as déjà découvert dans ta vie, à toi, des bénéfices cachés à souffrir?
Oui, ça, c'est une très bonne question. Il y en a des bénéfices cachés.
Il y en a certains.
Bien, à un moment donné, tu dis... Moi, il y a un moment donné dans ma vie, j'avais tout perdu. Je dis, c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste. Et j'étais comme attachée à ça. Je m'identifiais à ça. Je me sentais vibrer avec la souffrance. Écoute, je me souviens même que ma mère disait, viens, on va mettre un disque pour pleurer, ça fait du bien.
Hey,
alors, il y a quelque chose de, de vibratoire très fort dans la souffrance, autant que dans l'extase. Et je pense que quand tu as dealé avec ça depuis très, très longtemps, moi, je parle surtout de la souffrance intérieure, parce que de la souffrance physique, oui, je compose assez bien avec ça, probablement parce que j'ai pas de très grandes souffrances physiques. J'en ai eu, mais pas à ce point-là. Donc, c'est ça, c'est... Qu'est-ce que je disais? Je suis toute perdue.
Tu dis qu'on peut finir par s'attacher à la souffrance,
oui,
et que ça vibre fort.
Oui, c'est ça.
C'est quoi
ça,
le bénéfice?
Ben, le bénéfice, c'est de vibrer.
De se sentir vivante.
C'est de se sentir vivante.
C'est incroyable.
De se sentir avec quelque chose, au moins. C'est aussi noble, quelque part, la souffrance.
Merci de le nommer.
C'est une partie qu'on qualifie de noble. Hein? Les poètes maudits souffraient, les artistes souffraient. La souffrance, c'est vraiment... c'est des gens sensibles, intelligents, compassion. Il y a beaucoup de qualités. Hein? Est-ce qu'on va être plus sympathique à quelqu'un qui meurt en extase de rire? Non. Hein? Alors, je pense qu'il y a, effectivement des bénéfices à la souffrance qu'on peut nommer et qu'on peut accueillir sans se laisser avoir.
Exactement. Mmh. Je pense que le pas est, à la maison, je ne sais pas si vous réalisez l'importance, parce que c'est légitime. Ces bénéfices-là, ils ne viennent pas de nulle part. Là.
On n'est pas fous. Tu sais, à quelque part, là, il faut les regarder.
Et ils nous protègent, et ils viennent de quelque part et ils servent à quelque chose, et oui, ils sont corrects.
Exactement, et c'est ça qu'il faut faire attention, parce que là, on va parler peut-être que ça va avec ça, de l'apitoiement. Et ça, c'est vraiment une autre dimension où on ne peut pas aller, parce que là, on n'est plus dans la souffrance, on est dans la complaisance. On est dans l'excuse, on est dans... Moi, j'appelle ça de la tire, de la colle. Ça, c'est un ménage à faire aussi. C'est un ménage à faire. Puis là, on rentre dans la victimisation, on rentre dans plein d'autres affaires. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oui, je pense aussi. Et pour ceux qui nous écoutent, on sait tous, des fois, à un moment donné, il fait une minute, ça va faire, là. Faut que je me, tu sais, que je me change les idées. Mais cette balance-là, elle est difficile. Et tu t'es tout le temps dit comme étant pas victime des hommes qui ont traversé ta vie, de tes expériences et de tes choix. Tu as l'empowerment. J'ai jamais trouvé de mot en français pour l'équivalent de ça, mais...
Il y en a pas, je pense.
De te trouver un de sentir en pouvoir de toi-même, qui est extrêmement grand et super important pour toi. Tu l'as nommé, mais c'est également super important pour, justement, pas tomber dans la complaisance. Une fois où on tombe, où on a cet empowerment-là, au moins, même si on souffre encore, on sent qu'elle ne nous bouffe pas. Et tu t'es nommée non-victime et résiliente aussi.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as su que tu étais résiliée?
Ah, à chaque fois que je me tuais pas. À chaque fois que je venais à bout d'une forte dépendance de quelque sorte que ce soit. À chaque fois que quelque part la lumière prenait le dessus. J'ai eu plusieurs fois où je sentais que j'étais plus forte que la douleur. Et bon, ça prend un grand réveil. Hein? Je pense que c'est le CEO, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Si t'as un grand réveil, bon, moi j'en ai eu un par rapport à la toxicomanie, j'en ai eu un par rapport à ma vie amoureuse, j'en ai eu un par rapport à mes enfants, j'en ai eu un par rapport à mon métier. J'en ai eu des grands réveils et je pense qu'il faut les accueillir et les nourrir.
On parle avec France Castel qui s'est éveillée et qui se nomme résiliée dans quelques moments. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L sur le canal M et on parle de la souffrance cette semaine avec notre invitée France Castel dans quelques instants.
Comme fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air. Dire que je me sens seule, je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. De drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresse sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre.
toujours avec France Castel et on parle de la souffrance. On regarde ensemble la place de la souffrance, son rôle, mais on regarde aussi comment on peut la gérer. Parce qu'on a dit, OK, on n'est pas des victimes et on reconnaît qu'on souffre. On la tasse pas, là. Mais on apprend à vivre avec. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Puis, parce que tu dis également que tu n'es pas à l'abri. Puis que des fois, tu as encore des montées d'avoir envie de tout arrêter. Et je te cite, je m'en occupe. Et quand novembre arrive, tu as fait 2 tentatives de suicide en novembre, les 2 fois en novembre, tu dis, je m'y prépare.
Mmh.
Comment, une fois qu'on est résilié, qu'on a conscience de ça, on se prépare?
Oui, on se prépare, t'as raison.
Mais
comment on fait? D'abord, on reconnaît les signes.
Mmh.
Par exemple, bon, on va parler de novembre, là, qui est un mois maudit pour moi.
C'est difficile.
Et, je ne sais pas pourquoi, tout le monde parle de novembre, mais en tout cas, moi, des fois, je me dis, est-ce que je me donne la prescription? Est-ce que c'est intérieurement, je me dis, OK, c'est novembre, sors toutes tes cochonneries. Mais je ne sais pas. Bref, ça se passe. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de manque de lumière dans mon cas qui joue.
Tu parlais de la luminothérapie.
Ah oui, j'ai une amie qui m'a ma lumière.
Mais je te pose la question, parce que dans la vie, on sait que tout ce qu'on regarde prend de l'ampleur. Tu sais, c'est l'effet de l'observateur. Ta réalité, tu la fais en fonction d'où tu poses ton regard.
Ouais.
Mais moi, je parle souvent aux auditeurs et à la maison, vous le savez, à quel point je prône le fait de regarder ces émotions négatives et de les prendre parce que ce sur quoi tu mets la lumière disparaît. OK, où la balance entre accorder de l'attention, le légitimiser, pas esquiver, pas éviter, mais en même temps, pas trop se fondre dedans.
Ah, c'est tellement l'histoire d'une vie. Hein? Et je pense que c'est ça qui est la clé. La clé, c'est de reconnaître, de s'en occuper. Bon, il y a plusieurs moyens. Moi, je peux prendre des moyens physiques, la marche, je peux méditer, je peux aller faire un tune-up chez ma psy.
Mm-hmm.
Je peux parler, par exemple. En ce moment, ça pourrait être une partie, ça pourrait être presque un entretien qui pourrait être s'occuper de ma souffrance.
Parfait.
Et je peux m'alimenter mieux, je peux m'efforcer de ne pas glisser dedans, comme tu dis. Tu sais, c'est comme un puits, hein? Quand la souffrance arrive, là, puis quand ça veut, là, c'est pesant, là.
Mm-hmm.
Puis ça tire. C'est presque un aimant. C'est presque un aimant. Moi, dans mon cas, c'est comme un gouffre. Puis on dirait qu'il y a une partie qui veut y aller, là, pour voir, c'est-tu vraiment jusque-là, là, que t'as mal, là? Va dans un peu plus loin. Il y a quelque chose, là, qui se vide pas. Puis on se dit, écoute, c'est dans nos fibres, c'est dans nos cellules. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas à jamais réglé?
Mm-hmm.
C'est ça qui est intriguant.
Yeah.
Alors, je m'en occupe, je compose avec ça, je me prépare avec tous ces moyens-là. Et finalement, ben, tu vois, comme cette année, j'ai eu un très bon mois de novembre. Et l'année passée, pas du tout. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un mauvais mois de novembre, mais il faut dire que j'étais dans la compulsion du travail. Je travaillais beaucoup, je riais beaucoup avec pour le plaisir et tout.
Mm-hmm.
Et quelque part, ça me stabilisait. Et je pense que quand je perds des moyens d'action, parce que je suis une personne un peu active, j'y touche plus facilement à mon déséquilibre émotif et à ma souffrance intérieure.
Et avec toute honnêteté, est-ce que tu t'es déjà surprise en sachant ce qui te fait du bien? Parce que ces choses-là... Moi, je les prends en note, mais chaque personne, on expérimente puis on regarde ce qui fonctionne pour nous.
Mm-hmm.
Est-ce que tu t'es déjà surprise à ne pas les appliquer puis à y aller? Parce qu'on peut se faire ça aussi.
Ben oui, parce que ça fait partie, avant de s'en occuper, il faut... Moi, je comprends ta question, c'est une petite question.
Je sais que ça marche, mais je ne le ferai pas. Pourquoi?
Moi...
Tu veux pas aller bien?
Oui, ben à ce moment-là, faisons-le, puis berçons-nous avec.
Oui, sachons comme... qu'on décide de ne pas
sachons
le faire.
Sachons, et ça devient s'en occuper. Ça devient pas en être victime. Parce que si tu l'acceptes, tu dis non, ça me donne pas, non, je bouge pas, non. Je me souviens, moi, d'avoir resté dans mon lit 4 jours, me suis levé pour donner à manger à mes oiseaux. Parce que j'ai dit non, ça me tente pas. Mais j'ai vu mes petits oiseaux, puis là, je sentais qu'ils étaient en train de... J'ai dit, oh, je pense que je vais me lever, là. C'était pas pour moi, c'était pour eux. Regarde, mm-hmm. jusqu'où ça peut aller.
Mm-hmm.
Ouais. Alors, je pense que c'est ça. Mais j'aime ça, ton observation. Parce que oui, pourquoi pas y aller? Pourquoi pas se donner le droit?
Mais la réponse, c'est juste la conscience. On s'en fout de le faire ou de ne pas le faire. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on ne le fait pas?
Oui.
Et de rester avec ça dans une honnêteté envers soi-même.
Exactement. Et de faire attention parce que c'est un gouffre. Alors là, il y a une limite. Et c'est à chacun de la trouver. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Et moi, je sais qu'il y a une limite. Si je fais j'y vais, il y a une limite là, où je suis en danger. Alors, à ce moment-là, un petit coup de pied dans le cul!
Je veux savoir, avec tout le cheminement que cette souffrance-là, malgré tout, t'a permis de faire, de l'éveil à la conscience de toi-même, à te découvrir en tant que personne, à faire des changements qui étaient nécessaires dans ta vie. Est-ce que tu penses, en ce cas-là, que la souffrance est nécessaire dans la vie de quelqu'un?
Écoute, j'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que je vais te dire que ma souffrance à moi était nécessaire.
Mmh.
Je ne sais pas si elle est nécessaire à tout le monde. Et j'aime mieux penser qu'elle était nécessaire, puisque c'est ça qui m'est arrivé.
Mmh.
Fondamentalement, est-ce que ça l'était? Je ne le sais pas. T'sais? Mais je sais que pour moi, tout est bien. Je ne changerai rien. Parce que ça a m'amené où je suis. Puis ça m'amène à ça. Tu sais ce que je veux dire?
Exactement. Mmh. Exactement. Ben, ça t'amène à aujourd'hui à savoir qui tu es, à connaître plus de toi. Ça t'a amené à chercher énormément de réponses et à sortir de ce confort inconfortable, finalement, que, dans lequel on est tous à un moment donné dans nos vies.
Oui. Tu sais, on est plusieurs dans notre famille, puis il y en a certains qui n'ont pas eu besoin de passer par là, puis ils ne sont pas inconscients. Je pense que ça dépend de ton âme.
Mais exactement.
Ouais.
Puis en parlant d'âme, tu as nommé dans ton livre, justement, « Ici et maintenant » que je conseille à tous, dans lequel j'ai ri et j'ai pleuré, aux éditions La Presse. Tu as parlé de cette troisième fois où tu as envie de mourir. Tu as eu envie de mourir souvent, tu as passé à l'acte deux fois, mais il y a eu une fois où tu as eu envie de mourir ton fils t'a donné un chandelier avec un papillon. Le chandelier qui est le symbolisme de la lumière et le papillon qui est fondamentalement le symbolisme de la transformation. Moi, je suis une grande fan de symbolisme dans la vie. J'ai étudié énormément tout ce qui est nombre, tout ce qui est symbole, et je suis très, très à l'affût des synchronicités dans ma vie personnelle, et elles, au pluriel, me guident énormément. J'ai remarqué, quand j'ai lu, ça m'a sauté aux yeux, j'ai vu que non seulement tes deux tentatives étaient en novembre, mais ils étaient le 9 du 11e mois, ce qui donne pour moi un 9-1-1 et ce qui représente pour moi la clarté pour laquelle on a encore besoin de toi ici, France Castel. Mmh. Tu es un modèle d'authenticité, tu es devenue une enseignante pour plusieurs, et l'authenticité, le partage et l'aide, c'est ce qu'on a le plus besoin au monde. Merci.
Merci à toi.
Merci.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, yeah. Would you tell
Comment on peut comprendre notre souffrance? Comment on peut gérer notre souffrance? Comment mieux fonctionner à travers la souffrance? Comment on peut ne plus souffrir au final? J'ai pas la recette. J'ai pas la recette, mais quand on y pense, il y a quand même des éléments qui peuvent nous aider. Et paradoxalement, parce que j'aime beaucoup les paradoxes, le premier point, c'est d'arrêter de penser qu'il ne faut pas avoir mal dans la vie. Il y a une vérité qui est qu'on souhaite souvent éviter la souffrance à tout prix. L'humain n'est pas fait pour vivre de la souffrance. Biologiquement, on n'est pas fait pour vivre un stress prolongé même. C'est en quelque sorte un état qui est intolérable. Et encore, dans l'idée de l'inconfort, on souhaite se sortir de cet état inconfortable-là le plus rapidement possible. Et quand on n'accepte pas d'avoir mal et qu'on pense qu'on ne devrait jamais avoir mal, on se met à souffrir de souffrir. Et ça, c'est très paradoxal. Donc, si on peut commencer par accepter d'avoir mal à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, déjà, on s'évite d'avoir une couche supplémentaire de souffrance. On s'évite un peu d'en rajouter nous-mêmes. L'autre chose, c'est que la souffrance est perception. Pourquoi vous pensez qu'un même événement n'a pas le même impact sur deux personnes différentes? Pourquoi une chose est souffrante pour l'un et pas pour l'autre? Il n'existe pas de souffrance réellement que ce qu'on ressent comme étant souffrant. Et de comprendre ce qui est perçu comme souffrant, c'est déjà de reprendre le dessus sur elle et de pouvoir la guérir, parce qu'il n'y a rien de pire que le sentiment de ne pas avoir de pouvoir sur sa vie, sur quelque chose. Et quand on pense que la souffrance nous tient, on est perdu et on a perdu d'avance. Donc comprendre que la souffrance est perçue par nous, que par nous, et qu'elle a sa source, c'est déjà de commencer à guérir. Et donc, si la souffrance, c'est le résultat de notre perception d'un événement, accepter, ne pas résister, aide énormément à diminuer cette souffrance-là. Et ça s'applique aussi aux souffrances physiques. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vit avec un mal de dos chronique. On le sait, puis on a tous quelqu'un en tête, un mal de dos chronique, c'est banal, mais c'est fréquent et c'est pas moins douloureux. Je ne suis pas là pour légitimiser ou hiérarchiser une douleur. Mais la souffrance que ces gens-là vivent, il y a deux choix. Il y a une personne qui peut se dire que c'est pas grave, que ça fait partie de la vie, qui va arranger sa vie en fonction de ça, qui va faire certaines choses, qui va simplement y pallier doucement. Il y a l'autre personne qui, lui, va se définir à travers cette douleur physique-là et qui va mettre son attention sur tout ce qu'il ne peut plus faire. On peut tout de suite et déjà savoir que ces deux personnes-là qui ont le même mal le vivront pas pareil. Il va y avoir une différence dans le vécu parce que leur perception va changer. Et je parle souvent de l'attention qu'on porte à quelque chose et l'existence de cette chose-là. Des douleurs physiques atroces, ça existe. Des douleurs du cœur, de l'âme réelle, existent. Elle est où donc la ligne entre légitimiser, vivre cette douleur-là et changer notre focus sur ce qui nous rend bien à ce moment-là? Parce que des fois, c'est difficile de faire la balance entre accorder de l'attention à quelque chose pour le faire disparaître, comme je parle souvent de le faire avec nos émotions négatives. On arrête de vouloir à tout prix changer notre focus et aller dans des émotions positives. Non, on les regarde droit dans les yeux. Et ça nous permet enfin de les comprendre et de s'en débarrasser sur ce sur quoi on met la lumière, on maîtrise. Donc, la balance entre regarder notre souffrance dans les yeux pour la guérir et le fait de mettre toute notre attention sur elle pour que finalement ça ne devienne que notre seule réalité, c'est très difficile. et de trouver cette balance-là entre accorder de l'attention à ce qui fait mal, mais également regarder ailleurs pour que notre réalité devienne autre, devienne ce qu'on observe, c'est un des points majeurs. Quand vous avez mal, oui. Ayez mal, moi j'avais des grosses, grosses crises d'intestin et ça faisait extrêmement mal. Mais les fois où j'ai eu ces crises-là, où je les ai acceptées, que je me suis mise au repos, je me mets un film drôle qui me change littéralement mon focus de place, ça a beaucoup mieux été que les fois où je trouvais ça injuste, que je disais pourquoi moi, parce que ça ne m'adonnait pas toujours moi non plus d'être malade, tu sais. J'ai des responsabilités, moi aussi, puis moi aussi, j'ai des amis, tu sais, puis j'aurais aimé ça, cette fois-là, aller m'amuser plutôt que de souffrir dans mon lit. Bien, je vous garantis que ça passait beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Même chose pour les hospitalisations. Des fois, il faut faire la part des choses. Et la souffrance a son rôle. Celui de déranger la personne, de le sortir de son confort où on est souvent, malheureusement, endormi, hein, de se réveiller à soi-même. Et donc, j'en viens à l'idée que pour rendre la souffrance non nécessaire, c'est à nous de faire le travail quand il fait clair, beau et que tout va bien dans notre vie. Il ne faut pas attendre que la douleur s'installe, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, pour se poser les bonnes questions, appliquer les changements nécessaires et agir en fonction de notre plus grand bien. La souffrance a aussi des fonctions bénéfiques qu'on lui donne. Quels sont les bénéfices secondaires à souffrir? Est-ce que c'est la seule façon qu'on s'occupe de nous? Est-ce qu'on n'a jamais été bien dans notre vie et donc c'est la seule façon de se sentir vivant? Jouer le jeu, que ça s'applique ou pas, là. Qu'est-ce qu'on peut perdre à être en santé et à plus souffrir physiquement? Qu'est-ce qu'on peut perdre à plus souffrir à l'intérieur, à être heureux? Avec quel fardeau vient le fait d'être complètement sans souffrance, ni physique, ni psychologique, ni émotionnelle? C'est déjà bon de se poser la question, sincèrement. Et le point majeur, la souffrance n'est pas nécessaire. Je répète, la souffrance, elle n'est pas nécessaire. Et quand je parlais plus tôt au cours de l'émission de l'aspect social et inconscient de la place de la souffrance dans nos vies avec des phrases tellement entendues qu'on les répète sans s'en rendre compte, qu'on les intègre inconsciemment, on en vient à se dire que la souffrance, c'est la voie inévitable, le chemin obligé vers la lumière. Et la religion a fait beaucoup pour nous d'ailleurs là-dessus, on la salue. Mais la souffrance, elle n'est pas nécessaire. Oups! C'est à nous de faire les réalisations profondes, existentielle et les changements permanents quand c'est le temps, c'est-à-dire quand on va bien. Pensez-y.
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées, certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à descendre. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront, saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
C'est déjà tout pour l'émission sur la souffrance, cette souffrance-là qui nous touche à différents niveaux. Et je remercie infiniment Mme France Castel pour être venue nous parler de sa propre souffrance et de la façon dont elle la gère dans sa vie. Merci également à Jean-Sébastien La Liberté à la régie et à Anne-Laure Janson à la recherche. Non, la souffrance, elle n'est pas nécessaire, mais elle fait partie de nos vies. Et dans les moments de plus grande souffrance, rappelez-vous que votre souffrance, c'est la souffrance de tous. Et inversement, la souffrance des autres, c'est la vôtre également. Parce que quand on souffre, on peut faire souffrir les autres. Et c'est maintenant assez clair que de reconnaître la souffrance des autres, ben, c'est aussi d'adresser la sienne et vice-versa. Parce qu'on est tous liés. Et d'une manière ou d'une autre, la souffrance, elle est partagée, qu'on le veuille ou pas. Vous n'êtes jamais seul avec le fardeau physique ou émotionnel que vous portez. Et rappelez-vous que la souffrance, elle n'est pas nécessaire. Et si vous êtes dans un moment de grande souffrance, ben j'espère que vous saurez voir le grand enseignement qu'il vous apporte. C'est la voie la plus rapide pour s'en sortir. Bonne semaine.